Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la première émission consacrée à la promotion et à la défense des droits humains du mois d'octobre. Et pour l'animer comme deux fois par mois sur l'antenne de Principe Actif. Et pour l'animer avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et il y a Edith.
Bonsoir.
C'est un peu une, je dirais, une équipe
d'habitués. On n'a pas beaucoup de copains qui aiment la radio. On essaye.
Voilà. Mais bon, ça ne nous empêchera pas de continuer à vous parler.
On fera des enregistrements, des fois.
À vous parler de tous les thèmes qui nous importent et qui nous préoccupent, encore une fois, deux fois par mois. Donc, jusqu'à 20h ce soir, on va vous parler longuement, mais pas que, de l'actualité, bien sûr, de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Qui est une situation qui est plus que très préoccupante, voilà, et très dangereuse. Donc, on va vous en parler beaucoup. Et on va vous parler des recommandations et des demandes d'Amnesty International par rapport à ces crimes de guerre et à ces potentiels crimes contre l'humanité. On va vous parler aussi de la situation des Ouïghours, vous aurez des bonnes nouvelles. On va vous parler aussi de différentes choses qui se passent en France. Et aussi, peut-être de droits humains et de changement climatique en Afrique, si on a suffisamment de temps.
Et puis, on va essayer de trouver quelques bonnes nouvelles, parce qu'il y en a besoin tout de suite.
Tout à fait. Donc, pour commencer l'émission, je voulais vous lire un petit texte qui a été publié aujourd'hui par notre président, Jean-Claude Samouyer, président d'Amnesty France, et qui est adressé à tous les militants d'Amnesty International, mais qui, en fait, s'adresse... C'est très, très facile à comprendre, au grand public en général. Voilà ce qu'il dit. Nous démarrons une nouvelle semaine dont nous savons qu'elle peut apporter le pire aux Palestiniens coincés dans la bande de Gaza qui ne cesse d'être pilonnés par des attaques indiscriminées. Nous la démarrons encore incrédule et sidérée face à l'évolution dramatique de la situation en Israël et en Palestine après les attaques infamantes du Hamas du 7 octobre qu'Amnesty International a qualifié de crime de guerre et la répression terrible, disproportionnée et indiscriminée des autorités israéliennes, elles aussi relevant de crimes de guerre. Sidérées aussi face à l'inaction des États de ce monde pour empêcher ces bombardements et protéger la population civile dans la bande de Gaza. Mais nous la démarrons aussi sidérée et lourde d'une grande tristesse à la suite du meurtre de Dominique Bernard, ce professeur de français assassiné vendredi par Mohamed M., ancien élève de ce collège, jeune homme de 20 ans, radicalisé, qui cherchait, entre guillemets, un professeur d'histoire. Vendredi, Amnesty International France, par la voix de son président, donc lui, a condamné avec la plus grande fermeté le meurtre d'un enseignant au couteau dans un lycée à Arras, tué alors qu'il accomplissait sa mission d'éducation. Nous exprimons notre totale solidarité à sa famille, ses proches, ses collègues et ses élèves. Trois ans après la mort de Samuel Paty, cette mort nous touche toutes et tous. En raison de ses actions, sa mission, son histoire, beaucoup de ses membres et militants, ou tout simplement en raison des enfants de notre entourage, Amnesty International France est proche du monde de l'enseignement et de l'éducation nationale. Et nous partageons le choc de tous les enseignants et de toutes les enseignantes, ainsi que leurs douleurs et leurs inquiétudes. Nous exprimons aussi notre reconnaissance pour la volonté exprimée par tant d'entre eux et leurs familles de ne pas laisser la peur gagner et de continuer leur mission d'enseignement pour transmettre la connaissance, l'esprit critique, la réflexion et à travers cela, la liberté et la possibilité pour chaque enfant, adolescent et jeune adulte de devenir une personne libre, consciente de ses droits et jouant pleinement son rôle dans la société. Face à l'expression extrême de la violence et de la violation du droit humain le plus fondamental, le droit à la vie, nous aussi, au sein d'Amnesty International, nous ne baissons pas les bras. Nous nous inspirons de cette volonté exprimée ce week-end pour nourrir notre résilience et notre volonté farouche de poursuivre notre mission de défense des droits humains envers et contre tout. De tenter de faire entendre notre message dans un environnement violent, extrêmement polarisé, qui laisse peu de place à la nuance pourtant essentielle pour comprendre les situations, éviter les amalgames délétères et respecter et protéger toutes les personnes victimes des violations de leurs droits. Nul doute que le meurtre de Dominique Bernard peut ajouter un niveau de complexité supplémentaire dans notre travail pour mettre fin aux discriminations contre les personnes musulmanes et la protection du droit d'asile. Nous redoublerons de vigilance dans les jours et les semaines qui viennent pour nous assurer que la réponse des autorités françaises soit respectueuse du droit international. Voilà.
Voilà, ben c'est un très beau texte, je trouve. Et en plus, on va rajouter ce qu'on a décidé ensemble, c'est-à-dire c'est l'assassinat de deux Suédois en Belgique, puisque quand il a écrit ce texte-là, malheureusement, il ne le savait pas encore.
Hier soir, donc, il y a aussi un terroriste qui s'en est pris à deux supporters suédois qui étaient venus pour un match de foot en Belgique. Et donc, les Suédois sont pris pour cible, puisqu'il y a eu des autodafés du Coran à plusieurs reprises en Suède cette année. Et donc, effectivement, les extrémistes islamistes prennent pour cible maintenant des ressortissants suédois.
Dans la façon qu'il a eu de parler de son attentat, la personne.
Oui, il a revendiqué. Il est décédé, puisqu'il a été blessé lors de son arrestation et il est mort suite de ses blessures, mais il avait revendiqué son attentat aussi comme celui d'Arras, en fait, hein, par vidéo.
Donc, dure semaine et dur week-end. Voilà.
Donc, on va revenir un petit peu au conflit Israël-Gaza, puisqu'on. On avait décidé quand même de faire une partie de l'émission consacrée à cette vague de violence sans précédent. Donc c'est un nouveau cycle de violence extrême qui a débuté le samedi 7 octobre en Israël, mais aussi à Gaza et en Cisjordanie. Donc le premier bilan civil est tragique et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette violence meurtrière. Nous appelons la communauté internationale à faire pression sur les parties au conflit afin qu'elles respectent le droit international humanitaire et qu'elles protègent la vie des civils. Alors, nous sommes horrifiés par cette escalade de la violence de ces derniers jours et par le nombre croissant des victimes civiles en Israël, à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Nous appelons d'urgence toutes les parties au conflit à respecter le droit international et à tout mettre en œuvre pour éviter les effusions de sang parmi les civils. En vertu du droit international humanitaire, toutes les parties à un conflit ont l'obligation de protéger la vie des civils pris dans les hostilités. Cibler délibérément des personnes et des infrastructures civiles, mener des attaques disproportionnées et des attaques aveugles qui tuent et blessent des civils, ce sont des crimes de guerre. Nous rappelons qu'il n'est pas du mandat d'Amnesty International de proposer une solution politique au conflit, mais nous monitorons et nous dénonçons les violations aux droits humains. Donc le samedi 7 octobre au matin, le Hamas a lancé depuis Gaza une attaque coordonnée en territoire israélien. Pluie de roquettes, fusillades de civils et prises d'otages ont semé la terreur. Des milliers de roquettes lancées par le Hamas ont atterri dans plusieurs régions, au centre et dans le sud d'Israël, atteignant même Tel Aviv. Des combattants du Hamas ont enlevé et tué intentionnellement des civils dans des quartiers résidentiels israéliens, à plusieurs endroits dans le sud d'Israël. L'attaque du festival de musique Tribe of Nova, près de la frontière de Gaza, a fait au moins 260 victimes, surtout des jeunes gens. Outre les horribles exécutions sommaires de civils, au moins 150 otages ont été emmenés à Gaza, dont des enfants et des personnes âgées, la menace de leur exécution est brandie par le Hamas. On compte donc beaucoup de victimes civiles, et désormais, la bande de Gaza subit un siège total qui prive ses habitants d'électricité, d'eau et de gaz. Et donc ce sont les représailles d'Israël contre la bande de Gaza qui ont été immédiates et massives. Et une fois encore, ce sont les populations civiles qui payent le prix fort d'un conflit enlisé depuis des décennies on dénombre déjà des centaines de morts et des milliers de blessés des deux côtés et le bilan ne cesse de s'alourdir. Face à cette vague de violence sans précédent, un rappel du droit international s'impose et c'est Didier qui va vous en parler.
Oui, alors effectivement, ce que dit le droit international, c'est que ces crimes pourraient constituer des crimes de guerre et que tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Les enlèvements de civils et les prises d'otages par le Hamas sont interdits par le droit international et constituent des crimes de guerre. Tous les civils retenus en otage doivent être libérés immédiatement, sans condition, sains et saufs. On répète un peu les mêmes choses, mais c'est important de bien l'avoir en tête. À Gaza, les bombardements intensifs de l'armée israélienne frappent l'un des territoires les plus densément peuplés du monde. Environ 2,3 millions de personnes vivent à Gaza sur à peine 360 km², et plus de la moitié de la population est composée d'enfants et d'adolescents. Les bombardements israéliens incessants à Gaza ont tué au moins 2329 personnes et blessé plus de 9000 personnes. Ce que dit le droit international, les attaques disproportionnées et indiscriminées contre les civils sont interdites. Ce sont aussi des crimes de guerre. Ce que l'on craint, c'est que la population à Gaza, plus de 2 millions de personnes, dont 60% ont moins de 18 ans, et qui sont prises au piège dans cette minuscule enclave, soit sous le feu de tirs et de bombardements indiscriminés. Nous assistons actuellement à une crise humanitaire désespérée qui touche plus de 2 millions de personnes piégées dans la bande de Gaza, soumises au blocus illégal d'Israël depuis 2007. Le 9 octobre, les autorités israéliennes ont annoncé le siège total de Gaza, bloquant l'entrée de la nourriture, du carburant et de l'aide humanitaire et coupant l'approvisionnement en électricité et en eau. J'ouvre une petite parenthèse, si je ne me trompe pas. Je crois qu'Israël a accepté de rétablir l'eau.
Remis l'eau un peu, mais je ne sais pas si voilà. C'est partout. C'est au sud, puisqu'ils ont demandé à la population
tout à fait. De partir. Mais comme ils n'ont pas rétabli le courant et que la majorité de l'eau est distribuée par des pompes électriques, ça pose problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à Gaza, 50% de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté et 2/3 dépend de l'aide humanitaire. La fermeture de la seule centrale électrique de Gaza exacerbe la crise humanitaire, une crise humanitaire déjà catastrophique. Les coupures du courant et à l'eau potable ont de graves répercussions sur les services essentiels et provoquent un désastre en matière de santé publique. Les hôpitaux gazaouis, déjà très démunis, sont privés d'équipements médicaux vitaux. Alors ce que dit le droit international, là encore, c'est que la punition collective est un crime de guerre.
Oui, et donc je vais continuer aussi par rapport à ce que nos enquêtes révèlent, que l'armée israélienne qui frappe Gaza est équipée d'obus d'artillerie au phosphore blanc. Le phosphore blanc ne devrait jamais être utilisé dans les zones civiles. Le phosphore blanc, c'est une substance incendiaire, surtout utilisée pour créer un écran de fumée ou marquer des cibles. Il brûle à des températures extrêmes lorsqu'il est exposé à l'air et il peut continuer à brûler longtemps à l'intérieur de la chair. Il provoque d'horribles douleurs et des blessures durables. Gaza, Didier le disait tout à l'heure, est l'une des régions les plus densément peuplées au monde. L'utilisation du phosphore blanc aurait des conséquences dévastatrices. Alors que nous continuons à enquêter, nous exhortons Israël à respecter le droit international humanitaire. Et donc, Edith, tu vas revenir peut-être sur les demandes d'amnistie.
Oui, alors les demandes, effectivement, ce sont demander à la communauté internationale de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte de protéger pleinement les droits fondamentaux des Palestiniens et des Palestiniennes et des Israéliens et des Israéliennes et de garantir justice et réparation aux victimes. Amnistie demande aussi aux autorités israéliennes ainsi qu'aux groupes armés palestiniens de respecter strictement le droit international humanitaire, avant tout en faisant preuve d'humanité dans la conduite des hostilités, en prenant des précautions nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés aux populations civiles et aux biens à caractère civil, et en s'abstenant de lancer des attaques illégales et d'infliger des sanctions collectives aux civils. Nous exhortons tous les groupes armés palestiniens à Gaza à libérer tous les otages civils immédiatement et sans condition. Nous demandons une nouvelle fois à Israël de mettre fin au blocus illégal de Gaza, instauré depuis 16 ans, et de suspendre sur le champ les restrictions accrues imposées au cours de la semaine passée Israël doit mettre un terme aux attaques illégales qui tuent ou blessent des civils et détruisent des habitations et des infrastructures civiles. Enfin, le gouvernement israélien doit s'abstenir d'inciter à la violence et d'alimenter les tensions en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, et garantir la sécurité de tous les civils vivant sous leur contrôle. Voilà les demandes d'Amnesty, et c'est vrai qu'en les relisant, parce qu'on a travaillé cet article à 3, voilà, on se dit, mais on en est loin.
Oui. Peut-être revenir avant de finir sur le droit humanitaire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, puis je vois qu'on a quand même un tout petit peu de temps. Le droit international humanitaire s'applique dans les situations de conflit armé et impose des obligations à toutes les parties impliquées, à savoir protéger les civils et réduire la souffrance humaine pendant la guerre. Donc les combats entre les forces israéliennes et le Hamas et les groupes armés palestiniens sont régis par les règles sur la conduite des hostilités applicables, dont le droit international humanitaire coutumier. Donc l'interdiction des attaques directes contre les civils, du meurtre, de la prise d'otages et des attaques menées sans discernement est particulièrement pertinente. Donc c'est un principe cardinal du droit international humanitaire qui veut que les parties au conflit ne dirigent jamais leurs attaques contre des civils et prennent toutes les précautions possibles pour éviter de leur porter préjudice et de causer des dommages à des infrastructures civiles. Les attaques aveugles, notamment celles qui emploient des moyens de combat, qui ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire précis, comme les roquettes tirées par les groupes armés palestiniens depuis Gaza, sont également prohibées, tout comme la prise d'otages, définie comme la capture ou la détention d'une personne accompagnée de menaces de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition de la libération ou de sécurité de l'otage. Donc les violations des règles citées ci-dessus constituent des crimes de guerre, entraînant une responsabilité pénale individuelle qui s'étend à ceux qui ont planifié, approuvé et ordonné ces actes illégaux.
Effectivement, dans la préparation de l'émission, il y avait un article effectivement que je voulais vous dire, mais ça recoupe un peu ce qui vient déjà d'être dit sur les attaques, la condamnation par Amnesty des attaques dues au groupe armé palestinien du Hamas. Effectivement, bon, ça c'est des choses que vous avez largement entendues aussi dans les informations sur les différentes radios et différentes télévisions. Donc bon, je veux dire, rajouter des commentaires sur ces scènes d'horreur, c'est pas tellement le but non plus dans nos émissions, mais c'est important de savoir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et il y a une action, enfin, il y a une pression que continue à faire Amnesty et qui me paraît fondamentale, c'est par rapport à l'ONU et par rapport à la Cour pénale internationale, parce qu'effectivement, il y a une enquête déjà sur différents crimes de guerre déjà commis sur ce conflit israélo-palestinien qui dure, comme disait Clarlise, depuis des dizaines d'années. Donc il y a une enquête qui est démarrée depuis l'année dernière, 2022, sous l'égide de la CPI par rapport à ces crimes de guerre pour essayer de porter justice et de traduire en justice un certain nombre de responsables des deux camps, d'ailleurs de toute façon, aussi bien les autorités israéliennes que des autorités palestiniennes, et que donc c'est important qu'Amnesty continue à appuyer cette démarche de la Cour pénale internationale, parce que d'après ce qu'on peut savoir, cette enquête qui a été décidée, pour l'instant, n'avance pas très vite.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que rien ne justifie le fanatisme, quel qu'il soit, que ce soit un fanatisme religieux, un fanatisme politique, extrémiste, rien ne les justifie. Et nous, ce qu'on craint, c'est effectivement de voir se multiplier à l'extérieur de ces deux pays ce conflit et de voir des actes de terrorisme se multiplier partout. C'est atroce et rien ne les justifie, et il faut pouvoir se tenir debout et défendre les droits humains et les valeurs de l'humanité face à ces personnes.
Oui, effectivement, et en préparant l'émission, là, je suis retombé hier sur une phrase dite par Nelson Mandela qui a dit que toute personne qui commet ce genre de crime contre des populations civiles pour défendre des causes quelles qu'elles soient perd de toute façon lui-même toute humanité automatiquement, et donc retranche, entre guillemets, de la communauté humaine telle que nous, on la défend. C'est assez clair. Donc, de toute façon, c'est toujours injustifiable, quelles que soient les raisons, des deux côtés. Je pense que pour clore sur le chapitre, je voulais aussi vous donner, alors j'en ai pas trop parlé quand on a préparé l'émission, mais clore sur une petite information, parce qu'on a entendu beaucoup parler de manifestations dans différents pays, dont en France, en soutien à Israël et aux crimes dont est victime la population israélienne, ce qui est tout à fait juste. Mais on a entendu aussi parler d'interdiction de manifestations pour soutenir la population de Gaza, la population palestinienne, qui est soumise à ces menaces de l'armée israélienne. Et il y a donc Amnesty International, là encore par la voix de son président, qui a dit la chose suivante. Donc, suite au télégramme adressé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demandant au préfet d'interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes, donc notre président, Jean-Claude Samouyé, a déclaré « L'interdiction en France de toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit de manifester. Face aux atrocités commises par le Hamas dans le sud d'Israël, mais également aux blocus et aux bombardements très lourds dans la bande de Gaza, il est important que les acteurs de la société civile puissent se mobiliser pacifiquement et publiquement. » Et notamment ceux appelant les belligérants à respecter les droits des populations civiles. C'est pourquoi il ne saurait y avoir d'interdiction systématique du droit de manifester pacifiquement son soutien aux droits des populations palestiniennes. En vertu du droit international, Amnesty se place toujours sur ce plan-là, donc en vertu du droit international, une interdiction de manifester ne peut être envisagée qu'en dernier recours. Les autorités devraient toujours chercher à protéger et faciliter les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique en premier lieu. Une interdiction ne peut être légale que si elle est motivée par une menace spécifique et s'il est démontré qu'aucune autre mesure moins restrictive ne pourrait permettre de garantir l'ordre public. Voilà, donc je pense que
c'était important. Et ce que tu dis, c'est déjà relayé sur Amnesty Belgique, qui dénonce qu'en France, il y a des manifestations pro-palestiniennes qui sont interdites.
Tout à fait. Donc voilà. Et puis je renverrai aussi tous ceux qui nous écoutent à un rapport qui date de février 2022. Je l'ai relu en partie, là, mais j'ai pas tout lu parce qu'il est très long, mais qui s'appelle l'apartheid israélien envers le peuple palestinien. Vous le trouverez c'est le titre. Vous le trouvez sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Donc c'est un rapport de l'année dernière, l'apartheid israélien envers le peuple palestinien, et qui montre effectivement les différentes exactions dont sont victimes les populations palestiniennes depuis des dizaines d'années. Alors c'est pas du tout un rapport qui condamne l'État d'Israël en tant que tel, et qui appelle, entre guillemets, à sa disparition ou à quoi que ce soit qui ne figure pas du tout dans ce rapport, mais qui rappelle que les autorités israéliennes, comme tous les gouvernements du monde, ont des droits humains fondamentaux à respecter vis-à-vis de la population palestinienne. Voilà. Ouais. On va passer à la première pause musicale.
Voilà. De moments passés pour l'actualité internationale.
Et on se retrouve juste après.
To
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International. On vient d'entendre, ben, je suppose que tout le monde connaît la chanson quand même, Imagine de John Lennon. Petite parenthèse, on rappelle aussi que les droits des chansons de John Lennon ont été donnés en soutien financier à Amnesty International. Et donc c'est un choix de Claire Lise qui m'a dit quand on préparait l'émission, mais Imagine de John Lennon, c'est une très belle chanson qui appelle à la paix et elle avait parfaitement raison. Voilà. Comme on parle de paix, je crois qu'on a quelques bonnes nouvelles quand même.
Ben, on va essayer, parce qu'on a trouvé qu'il fallait quand même un petit peu alléger notre heure de radio avec des choses un peu plus sympathiques. Alors moi, ce n'est pas une vraie bonne nouvelle, mais c'est quand même une belle amélioration et je pense qu'on en avait parlé.
C'est moins pire.
C'est moins pire et c'est plus mieux. On en avait parlé à la dernière, enfin je crois même, c'est moi qui en avais parlé à la dernière émission de radio, c'est-à-dire la problématique des ventes d'armes françaises, puisque la France est quand même l'un des meilleurs vendeurs d'armes en roulant un peu les mécaniques, mais malheureusement les armes elles arrivent un peu n'importe où et on avait pas mal de témoignages comme quoi ça alimentait des conflits. Donc ce qui s'est passé là, ce qui est quand même une bonne chose, c'est que c'est une première attendue depuis longtemps. Le retour à la pratique des auditions publiques portant sur les ventes d'armes en France. Car oui, elles n'ont pas toujours eu lieu à huis clos, à l'abri du regard, comme ça se passe depuis quelques années. On vous explique. Alors le 26 septembre dernier, les commissions des affaires économiques, des affaires étrangères et de la défense de l'Assemblée nationale ont auditionné conjointement, alors attention, accrochez-vous, le ministre des Armées, le ministre délégué chargé de l'industrie et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, sur les rapports 2023 relatifs aux exportations d'armement et aux exportations des biens à doubles usages de la France. Alors, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit biens à doubles usages. Alors, je pense que c'est les biens qui ne sont pas des vraies armes, mais qui peuvent servir d'armes, ça dépend dans quelles mains ça tombe. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça doit être à peu près ça, hein, les biens à doubles usages.
C'est ça.
Voilà, parce que c'est un langage quand même un petit peu confidentiel. Donc, c'est la deuxième fois que ce rendez-vous annuel a lieu sous ce format, qui avait été décidé par l'ancien Premier ministre Jean Castex, impliquant les trois ministères qui sont concernés par la délivrance des autorisations d'exportation et aussi les trois commissions parlementaires correspondantes, ce qui représente quand même plus d'une centaine d'élus. Alors, il va y avoir une publication d'un rapport annuel au Parlement sur les exportations des biens à double usage, même si c'est encore un peu succinct, il n'y a pas quand même encore une belle transparence, mais il y a quand même une amélioration sur le format, donc plus de personnes qui vont être auditées, et sur la portée, les armes classiques, mais aussi ces fameux biens à doubles usages. Et il y a aussi une nouvelle commission parlementaire. Donc je vous épargne les articles de loi. Donc c'est une commission qui va être bicamérale, oui je dis bien, donc alors je traduis, Chambre des députés et sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargés de la défense en sont membres de droit. La commission comprend quatre autres membres désignés de manière à assurer une représentation pluraliste, de députés nommés par le président de l'Assemblée nationale et de sénateurs nommés par le président du Sénat. Enfin, selon la loi, la désignation des membres de la commission d'évaluation intervient dans un délai de 4 mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ainsi, on attend d'ici la fin de l'année cette commission qui doit être mise en place. Donc, le combat continue quand même. Il reste quand même beaucoup à faire pour permettre un débat public sur les ventes d'armes. L'administration et la politique doivent pallier les insuffisances de leurs rapports en fournissant des informations détaillées, exhaustives et actualisées sur ce qui est exporté, à qui et pour quelle finalité, comme indiqué dans les recommandations d'Amnesty. Et les interventions des députés, des ministres et des élus doivent se concentrer plus fortement sous le contrôle exercée de façon dont les risques à l'exploitation soient évalués. La priorité doit être donnée au respect des droits humains, du droit international humanitaire et des sanctions internationales en matière de vente d'armes et des biens à double usage. Et alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on vous a parlé aussi de la garde à vue de cette journaliste de Disclose, parce qu'effectivement, elle avait parlé un peu des armes, des hélicoptères qui avaient servi à tirer des pauvres gens sur la frontière égyptienne. Donc, ce que nous dit Amnesty, c'est dans un contexte où les journalistes révélant des informations d'intérêt public qui touchent aux exportations d'armement de la France sont de plus en plus pris pour cible. Le rôle de cette nouvelle commission peut être déterminant pour installer en France une plus grande transparence et une plus grande redevabilité du gouvernement sur ses exportations. Bon, les termes étaient un peu compliqués, j'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est quand même mieux.
Redevabilité,
c'est joli, c'est ça. On ne le fait pas tous les jours.
Voilà. Bon, si vous voulez des informations sur ce que vient de dire à l'instant Edith, vous pouvez consulter aussi le site Disclose, hein, qui est accessible à tout le monde. DIS et LOSE, disclose.fr, vous avez tout un dossier effectivement sur le travail qui a été fait en collaboration avec Amnesty International France et puis aussi le site d'information Mediapart. Enfin, il y a plusieurs structures qui ont travaillé ensemble.
Il y a Yémen, il y a plein d'endroits où les armes françaises, on les voit sortir et on se dit mais comment ça se fait et l'État vraiment bloque. Et il faut dire aussi que là, c'est aussi le travail d'Amnesty de continuer et de demander. Et là, il y avait aussi les députés, ce que j'ai dit l'autre fois, qui étaient quand même partie prenante pour en savoir un peu plus.
Tout à fait.
On va.
Donc, n'hésitez pas aussi à consulter Mediapart et ce site Disclose, vous en saurez beaucoup plus sans
Alors,
problème.
Alors, une autre bonne nouvelle, Didier, à toi.
Une autre bonne nouvelle, oui, c'est quelqu'un pour lequel on avait lutté. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, en fait, entre autres, on avait lutté, mais enfin, c'est dit à la fin dans l'article, dans le cadre des 10 jours pour signer notre grande campagne annuelle de mobilisation du mois de décembre en 2021. Et il s'agit d'un avocat égyptien, donc, qui a été libéré. Comme quoi, effectivement, ça peut prendre du temps, mais les bonnes choses arrivent. Donc voilà ce que dit le communiqué. Après 4 années passées à la prison de Tora dans la banlieue du Caire, dont 2 en détention préventive, Mohamed El-Bakr a été libéré le jour de ses 43 ans, le 20 juillet dernier. L'avocat égyptien avait été accusé d'appartenance à une organisation illégale, de réception de fonds en provenance de l'étranger, de diffusion de fausses nouvelles et d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Une avalanche d'accusations sans possibilité de faire appel. Difficile à l'époque d'y voir autre chose que des représailles menées par le régime du président Al-Sisi contre le fondateur du centre Adala pour les droits et les libertés. Les motifs exacts de la grâce présidentielle qui lui a été accordée sont à ce jour inconnus. Mais sa libération intervient alors qu'une pétition en sa faveur avait recueilli plus de 300 000 signatures. Son emprisonnement injuste avait été mis en avant lors de la campagne, donc comme je vous disais, 10 jours pour signer 2021, et faisait l'objet d'un dossier d'intervention suivi par plusieurs groupes d'Amnesty International en France. Et donc à sa sortie, Mohamed El-Bakr a déclaré qu'il n'oublierait jamais celles et ceux qui l'ont soutenu. Voilà, comme quoi effectivement ça sert de se mobiliser, voilà. On le rappellera jamais assez.
Il faut être tenace. Alors moi j'ai aussi une autre bonne nouvelle, en Belgique, une loi stop féminicide. C'est une première en Europe. Fin juin, le Parlement belge a adopté une loi pour lutter contre les féminicides. Cette loi cadre propose une définition précise du féminicide et des violences qui le précèdent. Violences sexuelles, psychologiques et contrôle coercitif. Elle prévoit de collecter des données statistiques sur les crimes de genre, d'améliorer des droits et la protection des victimes. Bon, mon lapsus fait rire. C'est affreux.
Oui,
un peu de sérieux, s'il vous plaît.
Non, mais ça met un peu d'humour dans des thématiques
qui sont
des fois un peu dures.
De mieux former la police et les magistrats. Reste à mettre en œuvre ce texte quand même. La Belgique, c'est 11 millions d'habitants, a enregistré officiellement 24 féminicides en 2022. Et Claire-Lise, à ton tour.
Alors moi, j'ai une très belle, jolie nouvelle. Voilà. Donc, Narges Mahamadi, journaliste et militante iranienne pour les droits humains, actuellement incarcérée en Iran, a reçu le prix Nobel de la paix pour son combat pour les droits des femmes. Donc, un prix qui honore et salue le courage d'une femme et celui de la population iranienne. Donc, un an après le début du soulèvement en Iran, le prix Nobel de la paix donc a été décerné le 6 octobre à Narges Mahamadi,
fervente défenseuse des droits humains en Iran. Un symbole d'autant plus fort que la militante iranienne est emprisonnée, de nouveau, depuis 2021, dans une prison à Téhéran. Emprisonnée pour son combat indéfectible pour la liberté et les droits des femmes. Même depuis sa cellule en prison, elle soutenait le soulèvement iranien déclenché à la suite de la mort de Mahsa Jina Amini. Narges Mahomadi a été récompensée pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté de tous, a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien. Dans un pays où il est aussi difficile d'être une femme que d'être une mère ou une défenseuse des droits humains, être les trois à la fois est un crime impardonnable. Et donc, je voulais juste revenir sur son combat infatigable, quand même. Donc, Narges Mahomadi est l'une des voix emblématiques en Iran qui s'oppose à l'oppression du régime des Mollahs, particulièrement active et engagée pour dénoncer les attaques à l'acide visant les femmes en Iran. C'est aussi l'une des voix fortes contre la peine de mort. C'est pour son combat, pour les droits humains, que les autorités iraniennes lui font payer le prix fort. Donc rapidement, les autorités iraniennes ont voulu faire taire sa voix. En 2008, elles ont procédé de force à la fermeture du centre de défense des droits humains qu'elles dirigeaient, arrêté et condamné plusieurs de ses membres. En 2009, les autorités iraniennes lui ont confisqué son passeport. Et depuis, elle est frappée d'une interdiction de quitter le territoire iranien. À partir de 2011, elle était sous le coup de la justice et notamment reconnue coupable de propagande contre le régime. Commence alors une série de condamnations et de séjours en prison. Condamnée, emprisonnée, libérée, incarcérée à nouveau, mais sa détermination est sans faille et elle poursuit sans relâche son combat. Donc nous appelons à sa libération et le 12 janvier 2022, lors d'un simulacre de procès qui a duré 5 minutes, Narges Mahomadi a été condamnée à 8 ans de prison et 2 mois de prison et 74 coups de fouet. À nouveau en prison depuis 2021, Narges n'a que très peu de liens avec ses deux enfants et son mari qui résident en France. Plus que jamais, nous appelons à sa libération immédiate, à la libération de toutes les femmes et les hommes injustement emprisonnés, notamment pour avoir participé aux manifestations « Femmes, vie, liberté ». Voilà.
Voilà, mais ça quand même, l'Iran a dû dire que bon non, c'était pas quelque chose de terrible d'avoir le prix Nobel de la paix, et que bon, c'est quand même bien. Ça fait plaisir.
Bah oui, puis ça, je pense qu'ils sont obligés de faire attention à ce qu'elle va devenir quand même.
Oui,
parce
ça fait.
Je pense que c'est une protection supplémentaire.
C'est une pression qui est émise à l'encontre du gouvernement iranien et des ayatollahs effectivement, de la République islamique, qui n'a encore une fois de République que le nom.
Voilà. Bien donc moi aussi, je parle. Je suis très très France là aujourd'hui. Donc contrôle aux faciès, c'est, vous en a parlé plusieurs fois. Eh bien, il y a quand même 5 associations dont Amnesty qui avaient posé la problématique légale de ce contrôle aux faciès au Conseil d'État. Et on a eu le 11 octobre 2023, le verdict est tombé. Le Conseil d'État a rejeté notre requête. Mais il a quand même reconnu que les contrôles d'identité discriminatoires ne sont pas des cas isolés. Cependant, le Conseil d'État a décidé de ne pas user de son pouvoir pour ordonner à l'État de prendre des mesures nécessaires pour y mettre fin. Alors, avec les 5 autres organisations requérantes, nous regrettons profondément que le Conseil d'État se soit déclaré impuissant à enjoindre à l'État de prendre des mesures nécessaires pour mettre un terme à cette pratique illégale. C'est particulièrement douloureux pour les milliers de personnes qui font l'objet de contrôles d'identité abusifs au quotidien, avec leur lot de violences et d'humiliations. Les personnes concernées espéraient pouvoir compter sur la justice et le droit pour qu'enfin l'État respecte son obligation, en vertu du droit international des droits humains, de garantir le respect du principe de non-discrimination. En France, cette pratique discriminatoire a été largement documentée et dénoncée depuis des années par les associations de défense des droits humains, des scientifiques, des institutions indépendantes comme les défenseurs de droits ou la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe. Alors, les associations appellent les autorités françaises à prendre les mesures à même de s'attaquer efficacement à la nature systémique de cette pratique. Il est urgent que le gouvernement français respecte ses obligations en vertu du droit international des droits humains de cesser les discriminations, comme les instances internationales et nationales de protection des droits humains l'y ont maintes fois exhorté. Et en dépit de cet arrêt décevant du Conseil d'État, les associations entendent poursuivre sans relâche leur combat pour faire cesser la pratique des contrôles d'identité au faciès en France. Elles rappellent que ces contrôles abusifs, inacceptables, constituent une forme de racisme institutionnel qui débouche dans de trop nombreux cas sur des violences physiques de la part de la police, voire la mort de certaines personnes contrôlées. L'action de groupe initiée par nos associations s'inscrit dans une longue histoire de mobilisation populaire et citoyenne contre les abus policiers, en particulier à l'encontre des jeunes des quartiers populaires, ciblés de manière disproportionnée par ces abus. Et là, c'est effectivement ce que tu as fait l'entrée, là, Didier. C'est dans ce contexte, on note que les journalistes qui révèlent des informations sont aussi des fois soumis à difficultés. Et donc, il faut absolument continuer ce combat.
Ok, bah écoute, on continuera de toute façon. Ouais. Voilà, il y a pas de souci. Mais enfin bon, on peut noter que le Conseil d'État n'a pas fait preuve
c'est
de
pas
beaucoup,
mouillé, quoi,
de
on
beaucoup
va dire.
De courage.
Voilà,
c'est
tout à fait.
C'est quand même étonnant. Deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Thank you. like birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission. Et on vient d'entendre Stacey Kent, une chanteuse américaine, je crois, qui personnellement j'aime beaucoup, voilà.
Ah, c'est Didier qui l'a choisie.
Voilà, et qui n'avait pas de rapport vraiment avec les droits humains, la chanson, mais c'est une reprise des chansons des Beatles. Donc comme tout à l'heure,
et il aime bien les Beatles
comme,
aussi, Didier.
Voilà, comme tout à l'heure, on a passé une chanson de John Lennon, j'ai trouvé que ça restait dans la note, et cette chanson s'appelle Blackbird. Voilà.
Alors là, Mina, si tu nous écoutes, t'es pas là, tu nous aides plus aux émissions pour l'instant. Et ben donc, la chronique culturelle va être menée par Edith.
Et carrément, absolument, Mina, tu vois un peu, quand tu pars, la place est prise. Ah, mais reviens, pas de souci. Alors, ben écoutez, moi, j'ai lu une BD. Alors, je suis pas une grande amatrice de BD, mais je l'ai prise à la médiathèque et je l'ai trouvée passionnante. Et le sujet, en plus, est un sujet, voilà, on vous en a déjà beaucoup parlé, les Ouïghours. Et donc, j'ai eu envie de partager avec vous mon plaisir de cette lecture et tout ce que j'ai pu apprendre. Donc, la BD s'appelle « Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir ». En sous-titre, enfin, je ne sais pas, Mina saurait savoir, la banderole qu'on a en bas des livres.
En bandeau.
Un bandeau, merci madame. C'est 25 années de reportage au Xinjiang, qui est la province où vivent les Ouïghours. Et c'est Derek Darbray pour le texte et Elliot Frankes, ou Frank, je ne sais pas comment ça se prononce, pour les dessins. Alors, Derek Darbray, c'est un journaliste d'investigation depuis plus de 25 ans, en France comme à l'étranger. Il s'est également tourné vers la réalisation de documentaires pour la télé française et est l'auteur de plusieurs livres d'enquête. Et Elliot Frankes démarre son activité professionnelle d'illustrateur au début des années 2000. Il a publié des albums dans de nombreuses maisons d'édition et pour la presse. Alors, je vais vous faire juste l'introduction donc, d'Éric Darbray. La crise ouïghour, qu'est-ce que c'est? Pour vous rappeler un petit peu, en Chine, il n'y a pas que les Chinois d'ethnie Han. Il existe aussi de nombreuses minorités. Parmi les plus connues, on peut citer les Tibétains, mais il y a aussi les Ouïghours. Ce peuple d'origine turque vit à l'extrême ouest du pays, dans la région du Xinjiang. Officiellement, les Ouïghours sont plus de 11 millions. Ils sont musulmans, écrivent avec l'alphabet arabe, parlent une langue turcophone et ne se considèrent pas du tout chinois. Pékin en a conscience et envoie des millions de colons Han pour siniser la région. C'est pour cette raison que les Ouïghours se révoltent régulièrement. Les autorités ont décidé de mater cette province rebelle par tous les moyens, même les pires, surtout les pires. Emprisonnement de masse, torture, viol, avortement jusqu'au 8e mois de grossesse, stérilisation, travail forcé, condamnation à mort. Selon les rapports internationaux d'ONG, 1 million de Ouïghours ont été ou sont encore détenus dans les camps de rééducation. 1 million du jamais vu. La situation au Xinjiang est devenue catastrophique. Un génocide se déroule sous nos yeux, lentement, mais sûrement. C'est du moins ce qu'ont validé une dizaine d'États, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ce génocide, c'est celui des Ouïghours. Voilà donc l'introduction d'Éric Darbray. Alors, dans ce livre de BD, bah écoutez, il est vraiment passionnant, aussi bien dans les images que dans les textes. Et on y voit, elle montre les révoltes successives des Ouïghours, les réponses répressives de Pékin. Alors, elle montre aussi l'opposition des Ouïghours. Donc, il y a une opposition qui est à l'étranger, souvent basée vers la Turquie, mais il y en a aussi en Europe. et les difficultés de faire reconnaître ce conflit dans les pays occidentaux. Donc 25 ans de d'enquête. Bon, nous, Amnesty, ça fait combien de temps qu'on parle des Ouïghours? Une bonne quinzaine d'années, oui, hein, oui, je dirais, oui, sans oui. problème, où c'est vraiment sorti dans les textes, mais effectivement sans aucune envergure occidentale et au niveau de l'information. Parce que ce qu'il dit aussi dans cette BD, c'est que l'Occident s'est arrêté un petit peu aux Tibétains. Oui. Et les Tibétains ont eu une page médiatique importante et un soutien populaire. Et parler des Ouïghours à côté, enfin bon, il parle même dans ce livre-là, et il dit que c'est tout à fait vrai. Ah, Ouïghours, oui, yo-gourde, enfin bon, les gens ne savaient pas prononcer le mot. Et donc, ça passait complètement à côté, parce que lui a fait beaucoup de... essayer de vendre beaucoup d'articles dans les journaux. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à un moment, ça a commencé à sortir. C'est en 2015. Ils ont fait un documentaire et il a été un peu dans les lauriers de la télévision à Paris. Donc, on a vu quand même un peu ce qui se passait. Et puis, en 2018, là, c'est l'opposition des Ouïghours qui a réussi à faire connaître à l'ONU le million de personnes emprisonnées. Donc là, on a dit, ah ouais, un million ! Ah ouais, vous êtes sûr quand même? Et là, Didier, ferme les toi tes oreilles, parce que si c'est arrivé vraiment au niveau international...
Je sais ce qu'elle va vous dire. Elle me l'a dit pendant la pause musicale.
Donc le chiffre d'un million de personnes internées commence à circuler dans les couloirs de l'ONU. L'équipe du président Trump y voit une opportunité pour attaquer cette Chine qui menace son leadership commercial. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, n'hésite pas à parler d'abus horribles et systématiques, de graves atteintes aux droits humains et même de tâches du siècle. Alors, pour dire quelque chose de positif de Trump, c'est vrai que c'est la première fois que je le redis et que je le fais savoir.
C'était pas sans arrière-pensée.
Oui,
pas du tout. Oui, parce qu'il avait un bénéfice à toucher.
Ça a permis...
C'est ce que j'allais dire.
Hein. Ça a permis...
C'est vrai que c'est très hypocrite, prise de position. En fait, ils s'en fichaient des droits humains.
Ils s'en fichaient complètement.
C'était un moyen pour lui, effectivement, de remettre en cause la suprématie de la Chine.
Mais c'est à partir de là qu'il y a eu, les médias au niveau international, un emballement sur les Ouïghours. Donc ça, c'est le premier point 2015.
Parce que Trump et droits humains, c'est un peu incompatible.
On est complètement d'accord. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ». Et alors aussi, c'est en 2021, où il y a un tribunal qui a statué à Londres. Alors, ce n'est pas un vrai tribunal. Ce sont des gens qui ont décidé de faire réellement des enquêtes. Enfin, plutôt d'étudier les enquêtes, d'étudier les témoignages. Parce qu'il y a quand même des Ouïghours qui sont sortis de Chine et qui ont témoigné. Et cela avec une très grande rigueur, comme un vrai procès. Et ils ont, en 1er décembre 2021, à Londres, l'heure du verdict a sonné. Je vous lis là les petites bulles, hein, parce que c'est encore mieux que ce que je peux vous dire. Alors, il est regrettable que la question du génocide des Ouïghours ne soit pas traitée par les gouvernements ou les organisations internationales. Donc là, on a parlé de génocide. Alors la Chine, ça a été des grosses piqûres de moustiques, ils ont condamné tous ces gens-là. Et puis depuis, c'est un peu statu quo. La Chine a dit que c'était des camps de rééducation pour apprendre des nouveaux métiers pour que les Ouïghours s'en sortent mieux.
C'est ça, on va les croire.
Mais ils ne sortent pas des camps, quoi.
Non.
Mais la province est toujours complètement bloquée. Les camps existent toujours, on peut les regarder avec les satellites. Il y a toujours des gens qui sont torturés. La stérilisation des femmes ou des hommes et la séparation des enfants des familles pour les rééduquer existe toujours. On ne peut pas avoir plus d'informations. La fin n'est pas une fin positive.
Et les Ouïghours, il y en a aussi un petit peu, parce que je vous en avais parlé, au Kazakhstan. Donc en fait, ils sont issus de ces populations de Chine, mais certains avaient réussi à s'expatrier vers le Kazakhstan. Alors le Kazakhstan, les Ouïghours, ils ne vivent pas les mêmes choses qu'en Chine, parce qu'ils ne sont pas dans des camps, ils ne sont pas stérilisés, etc. Mais en fait, c'est quand même des populations qui sont très marginalisées et qui n'ont pas toujours tous les mêmes droits que les gens du Kazakhstan.
Que les Kazakhs.
Que les Akazakhs, ouais. Donc voilà, et on avait soutenu, nous, à Évreux, une famille issue du Kazakhstan, mais qui était une famille de Ouïghours. Oui. Voilà, oui. Et qui ont été régularisés.
T'en avais parlé dans une émission.
Je vous rappelle le titre, parce qu'il faut absolument... Alors, je vais le redonner à la médiathèque, donc il sera visible à la médiathèque.
Vous ne précipitez pas tout de suite, mais il est encore dans les mains d'Edith.
Il faut carrément aller l'acheter. Hein. Donc, les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir. Marabule, édition Marabout, Éric Darbray et Elliot Franquès.
Ben merci Edith pour cette longue chronique culturelle.
Non, parce que quand ça plaît, ça plaît.
Et puis non, c'était très bien aussi de reparler de ce dossier. Ça faisait un petit moment.
Ah oui, c'est, moi j'ai même appris des choses.
On n'avait pas parlé.
T'as plus que 3 minutes pour les actualités.
Du drame, c'est ça, du drame des Ouïghours. Alors on va finir. Bon, on parlera la prochaine fois, ma petite Claire-Lise, oui.
du changement
climatique, droits humains en Afrique. Parce que là, on va être pris par le temps. Mais ce sera pour la prochaine fois. Donc ce sera une occasion pour les auditeurs et les auditrices de nous retrouver donc le 31 octobre. La prochaine émission d'Amnesty, c'est le mardi 31 à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. On vous rappelle aussi, si vous avez raté des émissions, qu'il y a des dizaines et des dizaines d'émissions en podcast sur le site de la radio.
Bon, écoutez les dernières quand même, c'est mieux.
Oui, hein. principeactif.net. Ah mais des fois, on peut rechercher des informations infos, plus anciennes sur des choses qu'on a dites.
Et on dit merci à qui ?
Et on dit merci au public hébroïcien qui est venu nous soutenir dimanche dernier. On faisait une seconde foire au livre, donc devant notre local, là, sur le parking de l'espace Saint-Léger.
On est très bien situé.
Il y a eu du monde toute la journée, donc merci de nous soutenir. On rappelle qu'Amnesty International se finance, y compris les groupes locaux, se finance sans aucune subvention. C'est interdit par le règlement intérieur du mouvement. Et donc, que c'est le public qui nous finance, entre autres dans ces manifestations.
Il nous finance et comme puis nous, on donne encore des sous au secrétariat à Paris pour faire les enquêtes et tout ça. Donc tout marche comme ça.
Tout à fait. Donc merci au public. On vous rappelle aussi que le groupe d'Evreux, c'est un groupe de militants bénévoles, bien sûr.
Venez nous rejoindre.
Si vous avez envie de venir faire un petit bout de chemin avec nous et de participer à nos combats, et puis aussi à nos victoires, on vous en a parlé de plusieurs tout à l'heure, de choses qu'on a gagnées. Donc n'hésitez pas à venir avec nous. Si vous voulez nous contacter, on vous rappelle le mail, c'est evreux@amnestyfrance, tout attaché, Amnesty avec un Y. Il y a Claire-Lise qui rigole parce qu'elle ne se rappelle jamais de l'adresse. Elle n'arrive pas à la mémoriser. Donc, evreux@amnestyfrance.fr. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées. On vous répond aussitôt. Et donc, merci encore au public pour la foire aux livres de dimanche dernier.
C'était très sympathique, voilà. Très agréable. Avoir merci des gens aussi. Qui veulent signer les pétitions et qui aiment les livres.
Merci aussi au coup de main de la ville d'Evreux qui nous a fourni le matériel, comme à chaque fois, le matériel indispensable pour organiser cette manifestation. Et donc, bon, prochaine émission de radio, on vous le disait, le mardi 31. Et aussi, alors, on vous a parlé de la dernière émission d'une émission Fréquence Droits Humains sur le thème du handicap invisible, mais qu'on est obligé de décaler un peu parce que, bon, pour différentes raisons, entre autres de maladie de Vincente, qui est notre permanente, qui travaille sur les émissions, elle a eu le Covid, la pauvre, pour la
troisième... Et puis nous, on n'a rien fait, donc on n'était pas prêts.
Troisième fois en 3 ans, la pauvre, elle a donc dû s'arrêter quelques temps. Et donc, on reporte l'émission, mais on la fera, mais ce sera que le jeudi 2 novembre, donc Fréquence Droits Humains sur le handicap invisible, et ce sera en direct de 18h à 19h30 sur l'antenne de Principe Actif.
Mais on sera dans les locaux de la Ronce.
On sait la Ronce qui nous invite avec différents invités spécialistes de ce problème de handicap invisible, bien sûr toujours en relation avec les droits humains à défendre de ces personnes qui sont victimes de ce genre de handicap. Voilà. Donc on va rendre l'antenne au laboratoire. Et on est très content de lui céder le 102.4 pour sa prochaine émission. Et on se retrouve donc, nous, le 31 octobre, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Voilà. Bonsoir.
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 Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.